enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Nous n'avons pas pris le temps, comme d'habitude, le dimanche soir, pour chanter des chants de célébration et célébrer la présence de Dieu. Alors, je vais vous demander de vous lever. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Et juste encore une autre fois, juste donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur et pousser un cri de joie envers Jésus. Nous sommes heureux d'être là ce soir. Nous sommes heureux d'être en la présence du Seigneur, digne de louange et d'adoration. Vous pouvez vous asseoir. Merci d'avoir choisi d'être là ce soir pour cette deuxième présentation qu'on appelle « Une réponse chrétienne à l'athéisme », qui est un peu style enseignement pédagogique, style conférence, et qui a comme but d'adresser les erreurs, les ironies, les contradictions et les arguments principaux de ce qui est appelé la nouvelle athéisme. Et c'est un sujet qui exige une réponse, car ces nouveaux athées ne sont pas gentils. Ils sont plus visibles, vocaux, militants et agressifs que jamais auparavant. Ils ont réussi à capter l'attention des médias, surtout les écrivains renommés best-sellers comme Richard Dawkins, The God Delusion, Sam Harris, qui écrit un livre appelé The End of Faith, Christopher Hitchens, God is Not Great, Dan Barker, Losing Faith in Faith, Michael Onfray, The Atheist Manifesto. Et ensemble, ils ont vendu des dizaines de millions de copies de leurs livres. Et ce sont des hommes qui comparent la Bible à des contes de fées. La croyance en Dieu égale à la croyance dans le Père Noël, le Père Noël, le lapin de Pâques ou la fée des dents. Et comme on a découvert la dernière fois, ces nouveaux athées cherchent à utiliser tous les moyens possibles, surtout les moyens médiatiques, pour attaquer, discréditer et ridiculiser la croyance en Dieu, la foi chrétienne et la crédibilité des Écritures, avec un contenu que j'appelle les 3 M des athées contemporains, moqueurs, menteurs et militants. Comme exemple, à part des plusieurs exemples que j'ai donnés la dernière fois, Sam Harris, dans son livre « The End of Faith », voici ce qu'il dit, « Les seuls anges dont nous ayons besoin sont ceux de notre meilleure nature, la raison, l'honnêteté et l'amour. Les seuls démons que nous devrions craindre sont ceux qui sont cachés au fond de la conscience de chaque être humain, l'ignorance, la haine, l'avarice et la foi, qui est certainement le pire. » Alors, selon Sam Harris, la foi est égale à l'ignorance, la haine et l'avarice. Et c'est juste un exemple de cela, qui est une déclaration typique de ces nouveaux athées, ces athées contemporains, qui est aussi évident, cette attitude, dans le film récent « Ridicule » avec Bill Maher. Et ce qui est regrettable est que ces écrivains, malgré leurs erreurs et contradictions, arrivent à influencer et nourrir les préjugés des gens ignorants des vérités du christianisme, comme les éducateurs et des journalistes qui, de plus en plus, vous avez remarqué, dénigrent, rejettent, ridiculisent et balayent à côté, d'une façon gratuite et légère, la foi et la croyance des centaines de millions et même des milliards de personnes depuis 2001. J'ai donné plusieurs exemples de cela la dernière fois. Et on le remarque quand les journalistes et animateurs sur la télévision, même les éducateurs, on entend parler de ceux qui sont au collège, cégep, université, comment que les gens vont juste balayer à côté avec une phrase, la croyance chrétienne et la foi chrétienne qui est crue par des millions et des milliards depuis 2 ans. Et ils sont ignorants quand ils font ces déclarations-là. Ils sont ignorants du fait que le christianisme est la religion qui croît le plus rapidement mondialement. La dernière fois, j'ai parlé de la croissance phénoménale du christianisme en Afrique, l'Amérique du Sud, la Corée et même ici en Amérique du Nord. Mais encore plus intéressant est la croissance du christianisme dans les pays fondamentalement athées comme la Chine. Malgré les meilleurs efforts de ce régime communiste et athée, ils n'arrivent pas à freiner l'avancement du christianisme chez eux. Il y avait un article dans le magazine, la revue The Economist, dernièrement. Puis ça, ce n'est pas une revue chrétienne, c'est une revue sur l'économie et la science. Et il avait un article dernièrement qui était appelé en anglais « Holier than Mao ». Chinese Christians might outnumber communists. Et il parle de l'avance du mouvement chrétien dans des pays communistes comme la Chine et que le nombre de chrétiens chinois vont bientôt dépasser même le nombre de communistes chinois. Alors, ce qui est remarquable de cela, comprenez, est que le christianisme connaît une croissance par conversion volontaire et non par naissance, menace ou imposition comme l'islam. Alors, il est vraiment ignorant de parler de la foi chrétienne comme une croyance datée d'une poignée de main de personnes non conséquentes. La vérité est qu'elle est une force mondiale grandissante. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour le mouvement chrétien, la foi chrétienne qui avance, même dans des pays qui essayent de l'écraser? Alors, après avoir lu leurs livres et documents, ainsi que d'avoir visionné leurs films et clips vidéo et visité leur site Internet, j'ai des réponses pour les athées. Et si vous vous souvenez, ma première réponse est « Je suis d'accord avec vous ». Moi et la Bible sont d'accord avec les athées sur un point, surtout qu'on a vu la dernière fois, le fait qu'il y a et qu'il y a eu beaucoup de mal fait au nom de Dieu et la religion, des choses atroces même. Et toutes ces choses sont regrettables, malheureuses, tristes et parfois inexcusables, mais ils ne sont pas la preuve que la Bible et le christianisme sont faux et méritent d'être rejetés comme les athées proposent. Au contraire, ils sont la preuve que ce que la Bible dit au sujet de l'être humain est vrai. La Bible ne présente pas les hommes comme parfaits et les chrétiens non plus. La religion a produit le mal dans certains cas, on est d'accord, mais l'athéisme aussi. Comme nous dit André Comte-Sponville dans la revue philosophique québécoise Midiane dernièrement, il a dit « Il peut être dangereux de croire en Dieu dans certains cas, mais il peut être dangereux de ne pas y croire aussi. » Voyez Staline, Mao Tse-Tung et Pol Pot, et nous pouvons ajouter Hitler, un grand athée darwiniste évolutionniste. Mais les athées n'arrêtent pas de dire que la croyance en Dieu produit le mal, qui est le but principal du film Ridicule, mais c'est une idée ridicule, car ce n'est pas la croyance en Dieu qui est mal, c'est le mal qui est mal. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous avons découvert que les athées exagèrent souvent le mal fait par les religieux, mais ignorent l'énorme bien fait par les églises et les chrétiens authentiques à travers le monde depuis des siècles. Les hôpitaux, des cliniques, des orphelinats, des banques de nourriture, des maisons de refuge, des écoles, des mouvements d'œuvres humanitaires énormes qui sont fondés par les chrétiens, Vision mondiale, la Croix-Rouge, l'Armée du salut, ainsi que les multiples œuvres humanitaires faites par des églises locales comme Action Nouvelle Vie, qui est la branche d'œuvres humanitaires de l'Église Nouvelle Vie, qui nourrit plusieurs milliers à chaque mois. Pourquoi ne pas parler de eux? Pasteur Claude a parlé, le témoignage de journaliste Brian Stewart qui dit, quand il arrive sur la scène d'un désastre, d'une catastrophe, c'est toujours les chrétiens qui sont là, les premiers. On peut mettre l'attention sur ceux qui ont fait du mal au nom de la religion, mais pourquoi ne pas parler de tout le bien qui est fait au nom de Dieu et par les chrétiens? Deuxième réponse, j'ai des sérieuses questions par rapport à vos motivations, comme on a vu la dernière fois, les motifs sous-jacents à l'athéisme. J'ai découvert que les arguments des athées ne sont pas motivés principalement par la recherche de la vérité ou par la découverte scientifique, mais plutôt par un désir de justifier un style de vie contraire à la Bible et de trouver une façon de soulager leur conscience et exécuter une sorte de vengeance contre Dieu et les chrétiens. Leurs écrits nous efforcent à demander la question. Quand on écrit ces livres-là, comme moi j'ai fait, ça nous pousse à demander la question « Pourquoi tellement d'efforts à essayer de réprouver et discréditer la Bible et la croyance chrétienne? » Pourquoi qu'ils sont tellement enragés, que ça les pousse à faire des déclarations fracassantes et étonnantes, comme questionner même l'existence de Jésus comme personnage historique, qui est une proposition complètement absurde. Il n'est pas long après qu'on commence à lire leurs écrits qu'on détecte une sorte de rage contre Dieu et les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on arrive à la même conclusion que Jésus. En Jean chapitre 3, versets 16 à 21, on le lit encore une fois. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un des versets les plus renommés dans toute la Bible. Mais il faut aller plus loin après qu'on ait lu ce verset-là, parce que Jésus nous donne la raison pourquoi que les gens ne croient pas. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Jésus, mais voici pourquoi que les gens ne croient pas. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus met le doigt sur le problème de l'incrédulité. C'est un problème de volonté et non de l'intellect. Encore une fois, loin de discréditer la Bible, les athées sont en train de la prouver vraie, comme avec le mal fait par l'humanité. Jésus dit « Pourquoi qu'ils ne croient pas? » Puis remarque ce que Jésus a dit. Il a dit « Les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière, car quiconque fait le mal haït la lumière. » Jésus n'a pas dit « Il évite la lumière, il n'apprécie pas la lumière, il fuit la lumière, mais il haït la lumière. » La lumière est décrit, la lumière ici décrit la vérité, ou la vérité qui est claire, qui est la vérité de Dieu et sa parole, et la vérité révélée en Jésus-Christ. Ces paroles de Jésus ne sont nulle part plus vraies et mises en évidence que dans les écrits de ces athées contemporains populaires. Car non seulement que ces hommes ne croient pas dans le Dieu de la Bible, ils le détestent. Il haït la vérité. Il haït ce Dieu, et j'ai donné plusieurs exemples de cela la dernière fois. Ils sont trop militants, trop agressifs, trop enragés par tout ce qui est chrétien et religieux, et cette haine rend leurs arguments beaucoup plus émotionnels que scientifiques et donc suspects. La source de leurs arguments contre l'existence de Dieu n'est pas la découverte scientifique ou des conclusions intellectuelles, mais plutôt de ce que j'appelle les 4 P. Le péché, la paresse, la peur et le passé. J'appelle ça les 4 P de leur arrière, leur motivation qui les pousse à haïr la vérité. La dernière fois, on a jeté un regard sur le péché, la motivation du péché en arrière les arguments des athées. Chez les athées, on découvre presque sans exception une justification pour le péché dans toutes ses formes et pratiques. La pornographie, l'adultère, la pédophilie, l'avortement, l'homosexualité, la rébellion, l'orgueil, l'usage de la drogue, et plus, et je n'exagère pas. Il me donne l'impression que l'athéisme militant et le péché flagrant vont main dans la main. Et surtout l'orgueil et la sensualité sans aucun restreint. J'ai donné plusieurs exemples graphiques et flagrants de cela la dernière fois. Et leurs efforts à éliminer Dieu pour justifier leur immoralité, ne sont rien de nouveau. Ce sont les arguments réchauffés du philosophe grec Épicure, du Nietzsche et le marquis de Sade et plusieurs d'autres qui cherchaient à soulager leur conscience par un reniement de l'existence de Dieu. Et comme j'ai dit la dernière fois, comme on dit en anglais, « same product, new package ». Ça veut dire les nouveaux athées, c'est à peu près les mêmes arguments qui reviennent depuis des siècles, sauf dans une boîte qui est nouvelle et une présentation qui est un peu nouvelle. Mais ces athées, pour éviter le jugement, ils éliminent le juge. Alors la raison arrière, la déclaration renommée de Nietzsche, « Dieu est mort ». Et je dis tout cela parce qu'ils prétendent toujours que leurs motivations sont scientifiques, quand il est évident pour moi qu'ils sont plutôt morales, ou devrais-je dire immorales, dont la racine est l'orgueil humain, qui est le péché de Satan, qui résiste la soumission à tout prix. Donnez quelques autres exemples de cela. Dan Barker, dans son livre « Losing Faith in Faith », voici ce qu'il dit. On voit la racine de l'orgueil en arrière de leur déclaration. Nous sommes profondément et moralement offensés par l'idée que nous soyons tous des pécheurs corrompus, condamnés au tourment éternel et en besoin d'un sauveur. Le bébé dans la crèche suggère que nous avons blessé la vanité d'un créateur mégalomane et que notre seul espoir est de nous soumettre à ce maître vindicatif. C'est de l'arrogance à son plus haut degré. L'une des pensées les plus dommageables de la Bible est le concept de Seigneur et Maître. Les adorateurs deviennent les humbles serviteurs d'un dictateur, se prosternant devant ce roi Seigneur Maître Dieu, lui adressant des prières d'adoration et recevant ses ordres. On voit l'arrogance de ne pas vouloir soumettre à aucun maître. Puis en plus, Barker a consacré un chapitre au complet de son livre pour dénigrer et se moquer des commandements et la moralité biblique. Alors, on voit la racine du péché en arrière de leurs écrits. Après ça, il y a la paresse que j'ai parlé la dernière fois. Troisièmement, il y a la motivation de la peur, surtout la peur de l'enfer, de faire face à un juge et d'avoir des conséquences pour leurs actions. La raison pour laquelle ils se plient en deux pour essayer de discréditer Jésus et ses paroles, jusqu'à questionner son existence même, est parce que personne dans la Bible ne parle plus de l'enfer que Jésus. Alors, il est important pour eux d'éliminer Jésus, Dieu, le jugement, l'enfer et même l'éternité, pour enlever même la possibilité qu'il y aurait des conséquences pour leurs incrédulités. Mais c'est un exercice dangereux, un risque qui ne vaut pas le prix. Surtout à la lumière de l'évidence massive pour l'existence de Dieu et leurs arguments faibles pour le réprouver. Même Barker y avoue dans son livre. Les chrétiens peuvent être loyaux et partiaux et possiblement corrects, comme les athées pourraient être rationnels et impartiaux et pourtant ils pourraient se tromper. Il avoue la possibilité qu'ils se trompent. Le problème avec cette citation est, premièrement, ils ne sont pas du tout impartiaux, comme ils prétendent être. Et quel danger, vous êtes d'accord avec moi, de prendre un risque éternel sur une croyance ou une non-croyance qu'il avoue peut-être en erreur. Comme nous demande Blaise Pascal, on a vu la dernière fois, voulons-nous jouer pile ou face avec notre âme à la lumière du fait que peut-être le christianisme est vrai? Anthony Flew, il dit, s'il y a un Dieu, il sera follement imprudent de ne pas essayer autant que possible de rester de son côté. Vous êtes d'accord avec lui? L'écrivain John Bloom, au sujet de la recherche et la découverte des religions, voici ce qu'il dit. Étant donné que nous avons peu de temps dans cette vie pour étudier les religions, nous pouvons renoncer à celles qui offrent une seconde chance dans le au-delà. Celles qui prétendent que nous serions réincarnés si nous avons fait des erreurs dans cette vie, ou celles qui nous promettent que tout finira bien, peu importe comment nous avons vécu. La prudence nous incite premièrement à examiner les prétentions de ces religions qui affirment que tout dépend des décisions prises dans cette vie. Ça, c'est la sagesse, ça. Laisse faire les autres religions qui disent, bien, à la fin de compte, on va juste être anéantis à la fin de notre vie ou réincarnés. Il faut vraiment qu'on examine comme il faut le christianisme qui dit que notre éternité est déterminée par notre présent aujourd'hui. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre le risque avec la possibilité que les chrétiens soient corrects ou ont raison. Vous êtes d'accord? Blaise Pascal, il dit, il y a deux types de personnes raisonnables dans ce monde. Celles qui servent Dieu de tout leur cœur et celles qui le cherchent de tout leur cœur parce qu'elles ne le connaissent pas. Il est raisonnable de ne pas. Il est irraisonnable de ne pas chercher poursuivre la vérité par rapport à Dieu. La réalité et l'inévitabilité de la mort nous a force à faire un choix pour ou contre Dieu, oui ou non. Et un vote d'abstention est compté comme un vote de non. La dernière fois, j'ai élaboré sur le péché, la paresse et la peur comme des influences majeures pour leurs écrits et déclarations, mais ils n'avaient pas eu le temps de parler de l'influence de leur passé. Leur passé comme motivation. En lisant leurs histoires, on détecte chez les athées une colère contre Dieu qui est anormale. C'est presque comme si leur athéisme est une forme de vengeance contre Dieu et les chrétiens pour les choses qu'ils ont vécues, comme si c'est la faute à Dieu. On détecte dans leurs écrits et les histoires une sorte de déception par rapport à quelques affaires. Premièrement, par rapport à l'hypocrisie qu'ils ont témoigné. Le prêtre en chef de l'école catholique de Hitchens était découvert pour être un homosexuel, un homme qui a vécu une double vie, puis ça a affecté Hitchens dans son jeune âge. Dawkins parle de l'abus sexuel qu'il a subi à la main d'un prêtre catholique quand il avait 7 ans, qui semble avoir laissé à croire qu'il est seul dans cet univers et que Dieu est indifférent. C'est pour ça qu'il écrit ça dans son livre. L'univers que nous observons a précisément les propriétés auxquelles nous devons nous attendre s'il n'y a au fond aucune création, aucun objectif, aucun mal et aucun bien. Rien d'autre que l'indifférence aveugle sans pitié. C'est triste. C'est triste d'avoir une approche et une attitude comme ça, que l'univers est froid, détaché et indifférent. Mais quand on voit ce qui est arrivé quand il avait 7 ans, on peut comprendre peut-être sa vengeance contre Dieu et l'Église. D'autres, c'est par la prière, n'ont répondu. Dan Barker, il raconte l'histoire. « Je criais à Dieu, mais aucune réponse. Comme la femme battue qui s'accroche à l'espoir, j'ai cru qu'un jour Dieu se manifesterait et il n'a jamais fait. » On voit une déception que Dieu n'ait pas répondu à ses prières. Barker était élevé par des parents chrétiens fondamentalistes qui l'ont, selon lui, tué avec la religion, l'indoctrination et l'intolérance. En plus, il parle de plusieurs prédicateurs hypocrites et chrétiens pécheurs qu'il a rencontrés. Et selon Barker, Robert Ingersoll, qui est un avocat, philosophe et athée renommé, a perdu sa mère à l'âge de 2 ans et haïssait son père, un pasteur déprimé, qui lui forçait de lire la Bible. Le père de Nietzsche était un pasteur, puis il y a plus qu'une personne qui suspecte que l'athéisme militant de Nietzsche était une forme de rébellion contre son père. Pour d'autres athées, c'est une mort tragique dans leur vie, la perte soudaine d'une bien-aimée. Darwin a perdu sa fille de 10 ans, et ça lui a fait souffrir énormément. Puis nous, on connaît des personnes, et je connais des personnes qui ont subi des choses tragiques semblables dans leur vie qui les poussent à rejeter Dieu ou à haïr Dieu. Dans une autre session, nous allons parler sur pourquoi que Dieu permet le mal dans la vie des gens ou sur la terre. D'autres, c'est le maltraitement. Quand on lit leur livre, on voit que c'est le maltraitement malheureux à la main des chrétiens. Des histoires qui racontent des amis maltraités par des croyants. Pour d'autres, c'est le mauvais exemple de certains chrétiens qui les pousse à rejeter la foi chrétienne. Comme la fille de Bertrand Russell au sujet de son père, un athée bien connu, a dit « Mon père, je ne pouvais même pas parler à mon père des chrétiens et de la religion parce qu'il a dit, il a rencontré trop de chrétiens misérables dans sa vie. Il dit, parle-moi pas de la vie chrétienne, les chrétiens sont misérables. » Et il s'est renfermé sur la vérité par rapport à des mauvaises expériences avec des chrétiens. Il y a un autre athée qui dit qu'elle est athée par rapport à son père qui était un pasteur misérable qui, selon elle, n'a jamais commis un plaisir dans toute sa vie. Pas un péché, même un plaisir. Parce que son père pensait que le plaisir égale le péché. Il faut faire attention en tant que chrétien, car la piété n'égale pas la misère, comme certaines peuvent penser. C'est Mark Twain qui a dit « Je préfère le ciel pour le climat, mais l'enfer pour les compagnons. » C'est dommage si l'attitude des gens par rapport à l'Église, c'est que les chrétiens sont misérables. Combien sont d'accord que la foi chrétienne n'est pas une foi rigide, froide, malheureuse et misérable? Au contraire, selon les Écritures, notre Dieu est un Dieu de joie et de célébration, et quand que Dieu appelle une fête, il le fait comme il faut! Voici un exemple parmi plusieurs. Néhémie chapitre 8, Dieu appelle une fête. Voici ce qui est remarqué. Il leur dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Et tout le peuple s'en allait pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livrait aux réjouissances. car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Être chrétien, ce n'est pas traîner une boule et une chaîne sur une chaîne. Ce n'est pas la misère. Ce n'est pas un deuil. Être chrétien, c'est un sujet de célébration et de réjouissance. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Quand Dieu appelle une fête, il l'appelle comme il faut. Fêtez comme il faut. Dieu, la joie du Seigneur, fait notre force. Et c'est malheureux pour les athées qui ont rencontré des chrétiens qui ont dégagé quelque chose, un légalisme, une misère qui les a détournés de la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne véritable est une foi remplie de la joie. On compatise avec la douleur de certains de ces athées, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs conclusions. Mais quand on découvre arrière leurs arguments, une justification pour le péché et la paresse, une vengeance pour les expériences passées ou une tentative d'éliminer les conséquences de leurs actions, on comprend bien pourquoi que le psalmiste se dit dans le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, pas dans sa tête, en son cœur, qu'il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut du ciel, regarde les fils de l'homme pour voir si quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. L'incrédulité est une affaire de cœur et non de l'intelligence. Et le résultat de cette incrédulité est la corruption, le mal et la paresse. Rien n'a changé depuis des milliers d'années. Quand j'étais pasteur de jeunesse il y a plusieurs années de cela, pendant 7 ans. 2-3 fois par année, quand j'étais pasteur de jeunesse, il y avait une jeune qui arrivait pour me dire, « Pasteur Marc, je ne crois plus en Dieu. » Et moi, je répondais toujours, « Oh, tu as réussi à réprouver l'existence de Dieu. Tu as réussi à prouver que la Bible n'est pas vraie, que Jésus n'a jamais existé et qu'il n'y aura pas une éternité après la mort. Tu as la preuve concrète pour ne plus croire en Dieu. » C'est sûr que le jeune disait, ben non. Moi, je disais, non, c'est ce que j'ai pensé. Alors, je sais pourquoi tu ne crois plus. Parce que tu couches avec ta blonde. La croyance ne conforme plus à ton style de vie. 9 fois sur 10, j'avais raison. Ce n'était pas une question intellectuelle. Il n'y a aucune de ces jeunes-là qui pouvait me dire la raison pourquoi ils ne croyaient pas en Dieu, pour réprouver l'existence de Dieu. C'était toujours un problème de cœur. C'est parce qu'ils ne voulaient plus croire par rapport à ses actions. 9 fois sur 10, j'avais raison, et le 10e fois, c'est par rapport à un autre péché. Mais c'est jamais intellectuel. Là, tu sais, l'insensé dit en son cœur qu'il n'est point de Dieu. Puis là, le psalmiste y associe ça avec le péché, la paresse et la corruption de l'humanité. Car personne depuis l'histoire de l'humanité a réussi à réprouver l'existence de Dieu malgré plusieurs tentatives. En plus, on découvre avec le temps et les découvertes scientifiques que la Terre et la création sont encore plus merveilleuses et complexes qu'on pensait. La science, comprenez quelque chose ce soir, la science n'est pas en conflit avec la croyance. Elle l'appuie plus que rien d'autre. Le plus qu'on découvre par la science que la Terre est magnifique et l'univers est magnifique et l'être humain est magnifique, le plus que ça appuie que nous sommes là grâce à un Créateur et non par la chance ou par hasard. Voici ce que Robert Jastrow a dit, un astronome, physicien et cosmologiste américain, pas n'importe qui. Pour le scientifique qui a vécu selon sa foi dans le pouvoir de raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravé les montagnes de l'ignorance. Il est sur le point de conquérir le plus haut sommet. Alors, il s'accroche à la dernière pierre et il est accueilli par un groupe de théologiens qui est assis là depuis des siècles. Ça, c'est bien dit. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Ça veut dire que les scientifiques découvrent qu'est-ce que les théologiens savaient depuis des siècles, que la création est merveilleuse. Ce n'est pas par accident ou la chance. C'est trop complexe et merveilleux. C'est le dessein de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Alors, il arrive à voir qu'est-ce que les théologiens savaient pas longtemps. C'est la raison première pour laquelle Anthony Flew a changé d'un athée à un croyant. Comme il explique dans son livre, « There is a God », vous l'avez sur l'écran. « There is a God, how the world's most notorious atheist changed his mind. » Anthony Flew est un athée renommé qui a changé son idée en 2004. Il est professeur aux universités de Keele, Oxford, Aberdeen, Reading en Angleterre. Il était le champion des athées pour plus que 50 ans. Il a été l'athée le plus connu, vendu et renommé parmi les athées, mais qui est devenu un théiste, un croyant en 2004. Par rapport à quoi? Par rapport à la découverte du code génétique, l'ADN. Voici ce qu'il dit dans son livre. « Oui, je crois maintenant, presque entièrement en raison des découvertes sur l'ADN. » Je pense que par la presque incroyable complexité des conditions requises pour la conception de la vie, l'ADN a prouvé que l'intelligence a dû intervenir afin que tous ces éléments, si extraordinairement diversifiés, soient-ils, œuvrent ensemble. Considérons, il continue, l'énorme complexité du nombre d'éléments en cause et l'extrême subtilité dans leur façon d'interagir, la probabilité que ces deux conditions soient réunies par hasard, juste au bon moment, est tout simplement infime. C'est cette grande complexité par laquelle les résultats sont obtenus qui me dit qu'il s'agit de l'œuvre d'une intelligence. Mon voyage vers la découverte de la divinité a été un pèlerinage de raison. J'ai suivi les arguments, là, il me guidait. C'est ainsi que j'ai été conduit à accepter l'existence d'un être auto-existant, immuable, immatériel, omnipotent et omniscient. Combien sont d'accord? Ça semble au Dieu de la Bible. On peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Quand on examine les faits, ça nous conduit vers Dieu. Alors, la vraie cause de l'athéisme, n'a rien à faire avec l'intelligence et la science, mais plutôt avec la volonté. Et si quelqu'un possède déjà un ou plusieurs de ces motivations, ces livres leur donnent encore plus de raisons pour ne pas croire, qui est à leur avantage. Ça nourrit des sentiments déjà présents et soulage la personne qui désire justifier son incrédulité. Pour cela, la grande popularité de ces écrits-là. Car l'athéisme sous la guise de la science et la connaissance crée ce que la Bible appelle une fausse paix, une paix trompeuse, qui est comme une bombe ou une thérapie pour leur conscience. Comprenez quelque chose ce soir? Dieu ne rejette pas les athées, mais ce sont les athées qui rejettent Dieu. Car son existence est une menace à leur mode de vie, qui pour moi est évident partout dans leurs écrits et leurs propos, et selon moi, rend le reste de leurs arguments très suspects. Karl Marx, vous avez entendu parler de Karl Marx, un autre athée renommé communiste, qui a appelé la religion, ou la foi, ou la croyance, l'opiate ou l'opium de la masse. Karl Marx a proposé que la religion est comme la drogue qui soulage la masse du peuple dans leur angoisse. Et lui proposait comme si la religion est une forme de thérapie, comme si on croit en Dieu, non parce que c'est vrai, mais parce que ça nous fait du bien. Mais il avait tort. Moi, j'appuie plutôt l'opinion de Czeslaw Milos, un écrivain scolaire gagnant du prix Nobel de littérature, qui a dit ceci. Pour échapper au châtiment éternel, l'homme essaie de se sauver lui-même en sortant de la religion. Le vrai opium du peuple est la croyance qu'il y ait le néant après la mort. Le grand réconfort de la pensée à l'effet que nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres ne seront pas jugés. La pensée marxiste a besoin d'être révisée. Ce n'est pas la religion qui est l'opium du peuple, mais plutôt l'athéisme qui est l'opium des corrompus moraux. Si vous voulez vivre une vie dégénérée, Dieu est votre ennemi mortel. Il représente le danger mortel pour votre égoïsme, votre cupidité, votre luxure et votre haine. Il serait alors de votre intérêt de le mépriser et de faire tout ce que vous pouvez pour débarrasser l'univers de sa présence. Il y aura donc de puissants attraits pour une vie dans un monde sans Dieu. Combien sont d'accord que ça, c'est bien dit et bien décrit? C'est plutôt l'athéisme qui est la drogue pour les personnes qui vivent leur vie comme qu'ils veulent vivre. Qui m'amène à ma troisième réponse. Ma troisième réponse aux athées est « Nous croyons en Dieu et la Bible ». Pour aucune autre raison que c'est vrai. C'est pour ça qu'on croit, parce que c'est vrai. Je m'explique. Nous ne croyons pas en Dieu et la Bible parce que ça nous fait du bien, comme les athées le supposent et proposent, comme une sorte de drogue ou relaxant, comme qu'un autre va dire, mais c'est, il ne croit pas parce que c'est vrai, il le croit parce que ça les fait du bien. Voici ce que Barker dit. Je peux comprendre les gens, pourquoi que les gens s'accrochent à leur foi. La foi est réconfortante. Elle fournit beaucoup de réponses aux énigmes de la vie. Combien sont prêts à dire amen? Merci, Barker. L'autre facette de la joie du chrétien repose sur le fait qu'il est pardonné, qu'il fait partie de la famille de Dieu et qu'il va passer l'éternité avec son Père. Pas mal pour un athée. Vous êtes d'accord avec moi? Combien sont prêts à dire amen à ce que Barker dit? Merci, Barker. Mais qu'est-ce qui est ironique? C'est le même homme qui appelle des chrétiens craintifs, misérables et l'esclave. Parce que dans un autre endroit dans son livre, il dit « La religion est une chose puissante. Son pouvoir d'attraction s'apparente à celui d'une drogue pour un toxicomane qui désirait être libre et heureux se retrouve piégé et misérable. La plupart des participants deviennent des victimes. » Moi, j'aimerais dire à Barker, c'est l'un ou l'autre. Comme on dit en anglais, « Make up your mind. » Soit qu'on est consolé par la vie chrétienne, ou on est misérable par la vie chrétienne, ça ne peut pas être les deux. Puis en plus, on est victime de quoi? Victime du réconfort, des réponses aux questions de la vie, le pardon et la joie. Moi, je suis prêt à être victime à cela. Et vous, est-ce que je peux entendre amen à cela? On est-tu victime? On a-tu des réponses? C'est l'un des deux. Vous voyez, ils nous accusent de croire des fables. Parce que ça nous fait du bien, ça nous rassure. Mais non parce que c'est vrai, qui est l'argument réchauffé de Karl Marx par rapport à la religion. C'est pour ça que je dis que c'est à peu près les mêmes arguments. Sam Harris, il a dit, lui, il dit, mais la raison pourquoi les gens sont croyants, c'est parce qu'il y a un noyau de vérité qui se cache au cœur de la religion. Parce que l'expérience spirituelle, les habitudes éthiques et les fortes communautés sont essentielles au bonheur de l'homme. Thomas Hobbes a dit, les gens sont libres de pratiquer la religion qui leur convient, celle qui les satisfait et qui les valorise. Mais il est ridicule de croire quelque chose seulement parce que ça nous convient, ça nous satisfait ou ça nous valorise. La seule raison pourquoi qu'on croit, c'est parce que c'est vrai. Je suis d'accord avec ceux qui disent Carl Sagan, un autre athée. Mais non de la façon que lui le voit. Sagan y a dit, il est de loin préférable d'embrasser une dure réalité plutôt qu'une fable qui nous rassure. Selon lui, la dure réalité était l'athéisme et la fable qui nous rassure était le christianisme. La réalité est que si nous allons inventer une religion qui nous rassure et soulage, ça ne serait pas le christianisme. Car les réalités du christianisme est que ça ne nous rassure pas en tout temps. Car ça nous parle d'un Dieu qui est parfois plus épeurant que les forces de la nature même et qui peut jeter notre âme à l'enfer. La foi chrétienne est exigeante et la vérité biblique est parfois dure. C'est Jésus qui a dit à Matthieu 10, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. » Si moi je te pourrais inventer une religion, je n'aurais pas mis ce passage-là. Matthieu 25. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Comprenez que pour la plupart des chrétiens, notre croyance nous coûte 10 % de notre salaire ou plus. Tous ceux qui payent leur dîme disent, et ça nous coûte notre temps et notre énergie. Et ça ne nous dérange pas parce que nous croyons que c'est vrai. De cela, nous sommes certains. Et de dire qu'on est chrétien, c'est parce que ça nous rassure, nous réconforte. C'est plutôt l'athéisme qui est le fable rassurant et facile. Quand vous n'avez rien à croire, rien à faire, rien à penser, aucune préparation à faire pour l'avenir, aucune pensée pour votre éternité. C'est les athées qui ont échangé la vérité, parfois dure, pour une fable facile et non exigeante, mais qui malheureusement porte des conséquences graves, tragiques et éternelles. Dan Barker, dans une entrevue qu'il avait avec une dame à la télévision, il a dit à cette dame-là, « Est-ce que tu crois que si je meurs, je vais à l'enfer? » Elle a répondu, « Oui. » Puis lui a répondu, « Tu n'es pas gentil. » Quelle réponse ridicule! « Tu n'es pas gentil. » Ce n'est pas une question de gentillesse. C'est une question, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Et si c'est vrai, c'est la chose la plus gentille que nous pouvons dire à quelqu'un pour qu'il puisse éviter l'enfer. Mais lui est offensé parce que nous croyons ce que nous croyons est vrai. Parce que nous croyons ce que Jésus a dit par rapport à l'éternité. Mais lui, t'es pas gentil. Bon, c'est pas une question de gentillesse, c'est une question de vérité. Alors, nous ne croyons pas en Dieu ni aux doctrines chrétiennes parce que ça nous fait du bien, comme une sorte de thérapie, que ça soit vrai ou faux. Non, on le croit parce que c'est vrai, qui est la seule bonne raison pour être chrétien. C'est vrai. Voici ce que C.S. Lewis a dit. C.S. Lewis est un écrivain philosophe renommé. C'est un professeur à Oxford, en Angleterre, un auteur des livres best-sellers « Mere Christianity » et « Les chroniques de Narnia ». Voici ce qu'il dit. « Je ne crois pas au christianisme parce que c'est pertinent, excitant ou personnellement satisfaisant. Je crois au christianisme parce que c'est vrai. Et si c'est vrai, ce sera éventuellement pertinent, excitant et personnellement satisfaisant. Cependant, il y aura plusieurs fois où ça ne sera pas perspicace, effrayant et personnellement convenable. Être un chrétien sera très difficile. » Alors, si vous ne venez pas à Christ simplement parce que c'est la réelle vérité, vous ne vivrez certainement pas la vie chrétienne et vous n'arriverez jamais à l'excitation et la pertinence et tous ceux qui l'entourent. La raison pourquoi qu'on demeure, même quand que la vie chrétienne demande, exige des sacrifices, et même quand qu'on est persécuté, et même quand qu'on peut passer parmi des temps difficiles, et même si parfois on a l'impression que Dieu ne répond à nos prières, et même quand que ça nous coûte de l'argent, l'énergie et notre temps. La raison pourquoi qu'on demeure et on est encore là après toutes ces années, c'est parce que c'est vrai. Et parce que c'est vrai, il est notre source de bonheur et contentement. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Mais on est là parce que c'est vrai. C'est vrai. Et plus qu'être vrai, elle est logique. Elle répond à plusieurs questions par rapport à la vie et l'univers, qui m'amène à ma quatrième réponse. La foi chrétienne n'est pas seulement vraie, elle est logique, rationnelle et raisonnable. En plus d'être vraie, nous croyons que la foi chrétienne peut être défendue d'une façon intelligible et avec des arguments logiques. Nous croyons que la Bible et l'existence de Dieu nous donnent les meilleures réponses aux questions de la vie, la création et la raison d'être. Une meilleure explication pour la merveille et les complexités de l'univers et l'humanité que celle offerte par les athées. Comme nous dit encore C.S. Lewis, il dit « Je crois au christianisme comme je crois au lever du soleil, non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois toute autre chose. » Combien sont d'accord sur les bien dit? Si vous avez le goût d'applaudir, applaudissez, hein, ça va. C'est bien dit, ça. Il dit, moi, je crois à la foi chrétienne, moi, je crois à la Bible. Non parce que je le vois que c'est vrai, mais par la Bible, par la foi et la croyance chrétienne, je vois toute autre chose, comme le soleil qui brille et qui éclaire sur la raison d'être, la création, pourquoi que nous sommes ici. Ça donne réponse à plusieurs autres questions. Puis en plus, nous ne sommes pas des ignorants, ni des gens qui découragent la recherche scientifique, les études et la réflexion intellectuelle ou qui valorisent l'ignorance au-delà de la connaissance comme vous vous proposez. Les athées qui proposent, même pour être chrétien, c'est parce qu'on est mal éduqué et parce qu'on ne connaît pas grand-chose. Bill Meyer il a dit, la foi équivaut à considérer l'absence de réflexion comme une vertu. Ce n'est pas vrai, ça. Christopher Hitchens a dit, « Toutes les religions s'efforcent de réduire au silence ou d'exécuter ceux qui les remettent en question. Je considère cette tendance récurrente comme un signe de faiblesse plutôt que de force. » C'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! Dan Barker, il dit, « Le christianisme ne demande pas aux gens de réfléchir. » C'est pas vrai, c'est pour ça qu'on est ensemble ici ce soir. Pour réfléchir. Michael Onfray, dans son livre, lui, il dit, les religions monothéistes, dont le christianisme, partagent une série de mépris identiques à haine de la raison et de l'intelligence, à haine de la liberté, à haine de tous les livres au nom d'un seul, à haine de la vie, à haine de la sexualité, des femmes et du plaisir. Lui n'a pas raison sur aucun de ces points. Wow! Un paquet complet d'erreurs. Il n'est pas correct sur un seul. 0/7. Parce que le christianisme ne méprise pas la raison et l'intelligence, on ne méprise pas la liberté, on ne méprise pas tous les autres livres. Viens à ma bibliothèque personnelle où il y a plus que 1000 livres. On n'haït pas tous les autres livres dans le monde, on n'haït pas la vie, on n'haït pas la sexualité. J'avais dit la dernière fois, la Bible est pour la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée, c'était son idée en partant. On n'est pas contre les femmes, ni les plaisirs. Alors lui est 0/7. C'est l'ignorance. Puis ce nom intellectuel. En plus, non seulement que nous ne sommes pas contre l'éducation, ce n'est pas des niaiseux et des dus de pique qui croient en Dieu, comme quelques athées semblent croire. C'est toujours l'illusion que ben, c'est juste quelques paquets de niaiseux, de dus de pique, des gens qui ne comptent pas, qui... Comprenez, il y a une multitude de scientifiques de très haute gamme qui sont des croyants. Ce n'est pas des gens mal éduqués. Comme exemple, Ian Hutchison. Ian Hutchison, c'est le professeur et responsable du département d'ingénierie et sciences nucléaires de MIT, Massachusetts Institute of Technology, une des écoles, si pas l'école la plus renommée par rapport à la recherche, l'ingénierie et la science. Et lui, c'est le chef du département de la science nucléaire. Et voici ce qu'il dit. Il est dangereux pour un athée de réfléchir profondément sur ses convictions. Il pourrait se convertir. Amen. Puis lui, c'est pas n'importe qui. Max Planck, un mathématicien physiciste qui a introduit l'hypothèse quantique. C'est pas n'importe qui. Lui, il dit, ne pourrait jamais y avoir de réelle opposition entre la religion et la science, car l'une complète l'autre. La religion et les sciences naturelles livrent un même combat dans une croisade incessante contre le scepticisme et le dogmatisme, contre la non-croyance et la superstition, et donc pour Dieu. Moi, je suis d'accord qu'un manque de connaissances parmi certains croyants que parfois les chrétiens semblent glorifier l'ignorance, mais ce n'est pas l'approche générale du christianisme, ni ce que la Bible enseigne. Actes chapitre 17, verset 11, ça dit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » C'était plus noble, pourquoi? Parce qu'ils faisaient la recherche. Ils l'examinaient. Matthieu 22, 37, Jésus a dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Dieu nous a donné un cerveau pour une raison. Il ne nous a pas donné du pudding au riz dans la tête. C'est un cerveau, un intellect, une capacité d'étudier, réfléchir, examiner et comprendre. On n'est pas contre cela, on est pour. Comme nous dit Dr. Kenneth Boa, un homme de double PhD des universités de New York et Oxford, le christianisme, contrairement à beaucoup de religions, encourage des questions critiques et décourage la naïveté. Comprenez, les chrétiens ne sont pas des superstitieux pour qui aucune preuve pour croire est nécessaire. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on ne dit pas, mais je vais croire peu importe l'évidence. Je n'ai pas besoin de preuves. Ça, c'est la superstition, ça. Mais nous ne sommes pas non plus des sceptiques pour qui aucune preuve ne suffit. Aucune évidence est assez pour croire. Si quelqu'un ne veut pas croire en Dieu, aucun montant d'évidence suffit, parce qu'il veut désespérément ne pas croire. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu, mais aucune preuve qu'un athée accepte. Moi, je suis d'accord avec les athées comme Sam Harris qui dit: j'espère démontrer que la spiritualité peut et même doit être profondément rationnelle, même lorsqu'elle vient en dévoiler les limites de la raison. Nous devons nous diriger vers une époque où la foi sans aucune preuve déshonore ceux qui l'affichent. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a la preuve pour la vie chrétienne et le christianisme. Sam Harris, il doit encore y avoir des bonnes raisons de croire à la puissance de la prière pour la guérison, mais notre crédulité doit être à la hauteur des preuves. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour cela l'Institut de théologie pour la francophonie. C'est pour cela qu'on donnerait des cours sur la Bible, la sociologie, la psychologie, la religion. C'est pour ça qu'on fait des conférences comme qu'on fait ici ce soir. Nous sommes pour l'étude, nous sommes pour l'éducation et la réflexion intelligente. Moi, je suis d'accord avec Francis Bacon qui a dit: si un homme commence avec des certitudes, il terminera avec des doutes. Mais s'il contente de commencer avec des doutes, il finira avec des certitudes. Et nous, on ne méprise pas des doutes raisonnables, des gens qui questionnent, des personnes qui veulent avoir des réponses. Et nous croyons que si quelqu'un demande, il commence avec des doutes, puis demande des questions raisonnables, nous croyons qu'il va finir avec des certitudes de ce qu'annonce la Bible. C'est pour ça que j'encourage les questions viables de n'importe qui, les questions viables des athées, parce que nous avons une réponse valable. Et non seulement que notre réponse est valable, elle est vivante. Son nom est Jésus-Christ. Une vérité qui est vraie, valable et vivante. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Nous le croyons qu'il est vrai, il est vivant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde debout, juste pour un instant? D'en arrière, jusqu'ici en avant. Tenez la personne à côté de vous, puis je vous donne un choix. Deux choses. Soit les dire « Jésus est vivant » ou « Je ne suis pas un deux de pique ». Un des deux. Pas encore, non, non, pas encore. Faites-vous asseoir. Sinon, quelques minutes, je vous promets qu'on va sortir ici vers... Pas longtemps. Nous sommes des croyants qui croient en Dieu pour une raison, parce que la preuve. Parce que nous sommes convaincus, il y a l'évidence. Moi, j'aimerais vous donner quelques raisons sommaires pourquoi que nous croyons en Dieu. J'avais dit 5 raisons, peut-être qu'on va juste faire 2 ce soir. Continuons à un moment donné. Pourquoi que nous croyons en Dieu parmi des douzaines et des douzaines et des douzaines? Donnez quelques exemples, quelques raisons très brefs. En janvier, ils vont avoir un cours de 39 heures qui va être donné à ce sujet, les morts du soir, puis avec Dr. Reeder, qui est un PhD aussi en biologie, se joindre à moi pour enseigner plusieurs de ces choses. 5 raisons pour lesquelles nous croyons en Dieu, et ces raisons sont complètement à part de l'expérience personnelle et le témoignage des milliers de vies changées et transformées par Dieu, comme nous ici. Moi, je pourrais juste dire, bien, la raison pourquoi que nous croyons dans la Bible et Jésus et l'Évangile, c'est parce que viennent à l'Église aller voir des milliers de témoignages des vies transformées. Mais les raisons sont à part de l'expérience personnelle. Même Barker, malgré l'étonnanté, il avoue qu'il y a eu plusieurs, il a rencontré plusieurs qui ont un témoignage de vie changée. Voici ce qu'il dit dans son livre. « Lorsque j'étais un jeune évangéliste, je travaillais avec des groupes de chrétiens de réhabilitation de toxicomanes comme Défi Jeunesse. J'ai entendu bon nombre de témoignages du miracle de la puissance transformatrice de Dieu. » Il est certain que la religion peut motiver les gens à accomplir d'étonnantes prouesses. Cependant, c'est un peu comme frapper une balle de billard avec un canon où on a le résultat escompté, mais le jeu est complètement détruit. Ça revient à changer une dépendance pour une autre. Donc, combien sont d'accord qu'une dépendance sur Dieu est beaucoup mieux qu'une dépendance sur la cocaïne? Vous voyez? Il dit, « Ah, c'est vrai! » Merci Seigneur pour Défi Jeunesse, parce que quand le témoignage de David Wilkerson et Défi Jeunesse, quand il parle de Défi Jeunesse, justement, quand il voit les résultats de Défi Jeunesse, des milliers puis des milliers de personnes, ça c'est le mouvement, ça c'est le centre de réhabilitation pour les toxicomanes et alcooliques et personnes en difficulté qui était fondé par David Wilkerson, qui existe depuis des dizaines d'années. Et il dit, quand que je rencontre, il faut qu'il y ait vous, que oui, il y a des personnes qui sont libérées, transformées complètement, mais il dit, well, OK, ils ont échangé une dépendance de l'alcool et la cocaïne et l'héroïne pour une dépendance pour Dieu, mais refuse de voir le bien en ça et les bons résultats. Ça qui est malheureux. Il avoue que Dieu les a transformés, mais refuse de croire la puissance de la vérité ou de l'Évangile. Alors, les raisons pour croire en Dieu, 5 raisons j'ai dit pour croire en Dieu, mais complètement à part des témoignages personnels. La première raison est la nécessité d'une cause. La nécessité d'une cause. Ça veut dire que rien n'arrive de rien. Arrière toute action et objet, il nous faut une cause, une force. Les questions de la cause sont, vous l'avez sur l'écran. Connaissez-vous un édifice qui n'a pas de constructeur? Connaissez-vous une peinture qui n'a pas de peintre? Connaissez-vous un véhicule qui n'a pas de fabricant? Si vous avez répondu affirmativement à une de ces questions, veuillez préciser. La grande question est, qui est en arrière la création de l'univers et tout ce qu'il contient? Même Voltaire, un athée renommé, fallait faire face à ce dilemme. Il a dit, « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. » Quand il voit la complexité de l'univers, c'est comme une horloge qui marche précisément, exactement. Mais est-ce qu'il est possible que cette horloge n'a pas d'horloger? Les qualités de l'univers dans lequel on vit sont trop exactes pour être la chance. L'univers entier crie pour l'existence d'un créateur qui a mis tout en place pour rendre la création possible, la vie humaine possible. Comme dit Anthony Flew, maintenant, les croyants, les athées peuvent être d'accord sur une chose. Si une chose existe, c'est qu'elle doit avoir été précédée d'une chose qui a toujours été. Comment est survenue cette réalité éternellement existante? La réponse est qu'elle n'a jamais eu à survenir. Fais votre choix, Dieu ou l'univers. Quelque chose a toujours existé. Dinesh D'Souza dit, pourquoi la gravitation a-t-elle seulement la force dont elle dispose? Pourquoi qu'elle n'est pas plus forte ou plus faible? Les physiciens qui se posent cette question arrivent à une conclusion remarquable. Pour que la vie soit, pour que l'univers puisse avoir des observateurs, la gravitation doit précisément avoir la force qu'elle a. Elle est exacte. Durant ces dernières années, les physiciens ont reconnu la place de l'homme dans le cosmos. Il apparaît que la largesse et l'ancienneté de notre univers ne sont pas coïncidences. Ils revêtent les conditions indispensables à la vie sur la Terre. En d'autres mots, l'univers devrait être aussi grand et aussi vieux pour pouvoir héberger des vivants comme vous et moi. L'univers entier, avec toutes ses lois, semble être un complot visant à nous produire. Les physiciens appellent cette incroyable découverte le principe de l'anthropique, une cause. Ça veut dire que tout cela nous dit qu'il y a une cause, il y a une raison pour la précision de l'univers. Ce n'est pas par accident ou hasard, il y a un fabricant, un créateur en arrière de tout cela. Et nous croyons que le créateur, c'est Dieu. Première raison pourquoi que nous croyons en Dieu, la nécessité d'une cause. Et deuxièmement, c'est la crédibilité de la Bible. La crédibilité de la Bible, des Écritures. La Bible est un document historique, authentique, documenté, crédible et valable, que vous le croyez ou pas. Comprenez quelque chose, la Bible n'a pas tombé du ciel. Tout fait, tout cuit comme ça, n'était pas donné par un ange. C'est un livre documenté, historique, valable et vrai, qui nous raconte l'histoire de Dieu et le peuple de Dieu et un homme Jésus qui est marché sur la terre. Il est vrai en tant que document historique. Et Ian Sherwin White, juste en parlant de livre des Actes, il dit « Toute tentative de rejeter l'historicité du livre des Actes des apôtres, même en ce qui est trait aux détails, doit maintenant apparaître comme étant absurde. Les historiens romains l'ont tenu pour acquis depuis longtemps. » On est d'accord qu'avec les centaines et des centaines de variations, paraphrases et traductions que la Bible a connues et connaît, qu'il existe quelques erreurs, fautes, contradictions et changements de la version originale qui était sans erreur et infaillible. On est d'accord avec cela, mais non pas assez pour changer l'essence du message. Ils sont tellement minimes que c'est ridicule de balayer à côté l'ensemble des Écritures par rapport à quelques variances dans les traductions. La description générale des événements dans la Bible et l'essence originale de son contenu n'a jamais été sérieusement doutée. Oui, la Bible est écrite par des hommes avec des points de vue parfois différents, qui ont donné des détails parfois différents, comme dans les Évangiles. Les athées vont dire, mais tu vois, il y a un évangéliste qui a raconté l'histoire de cette façon-là, puis un autre évangéliste qui a dit, bien, c'est de cette façon-là, puis on va dire, bien, c'est pour ça qu'il faut balayer à côté toutes les Écritures. Au contraire! C'est la preuve qu'elle est vraie en tant que document historique, vrai, humain, et non un complot. Si la Bible aurait été fabriquée par un groupe de personnes 50 ans après les faits, ils auraient fait en sorte que toutes les histoires aient fait raconter sans ligne parfaitement. Mais non, chacun voyait les faits selon son point de vue, comme n'importe qui peut témoigner un accident ou un incident sur la rue. Les policiers vont témoigner, m'en parler à un, puis un va dire, bien, je pense que c'était un auto noir qui est venu de la gauche, puis a frappé. Puis là, on va dire, bien, je pense que c'est un auto qui était bleu foncé, qui est arrivé à une certaine vitesse. Puis moi, j'ai vu la... Puis là, ils vont voir l'essence de ce qui est arrivé. Mais il est inévitable que deux, trois personnes vont voir quelques faits qui sont un peu différents. Alors, cela, quand les athées vont dire, tu vois les quelques contradictions dans les racontes des évangélistes, là, ça ne dit, il ne faut pas rejeter la Bible pour cela. Il faut dire, vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas été fabriqué, c'est quelque chose qui a été témoigné. Ils ont écrit qu'est-ce qu'ils ont témoigné. C'est quelque chose qui est vrai. Et ces témoignages-là n'enlèvent pas l'essence du message qu'il y avait un homme, Jésus, né en Bethléem, qui a fait des miracles, qui a enseigné qu'il est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix et qu'il a ressuscité. On le croit parce que c'est vrai. C'est pas fabriqué. Ça change pas le fait que les choses ont pris place. David Gustafson, directeur de Pacific Asia University à Hawaii, il dit « Je crois que les contradictions dans la Bible revêtent une certaine beauté. Dieu parle par le biais de cette humanité faillible tout en gardant intact le message central de la Bible. » Puis en plus, quel est votre problème avec la Bible? Ce que je demande aux athées, c'est quoi vos problèmes avec la Bible? Dan Barker, qui est le président de Freedom From Religion Foundation aux États-Unis, lui a envoyé des lettres à tous les hôtels et motels aux États-Unis, des milliers, pour demander qu'il enlève la Bible dans certains de leurs chambres, pour créer des chambres non-Bible, comme on a non-fumeurs. Des milliers d'hôtels. Il dit, vous devez avoir des chambres non-fumeurs, non-Bible, non-smoking, non-Bible rooms pour nous les athées. Parce que selon lui, dans ses écrits, il dit que la Bible est une offense pour lui comme la pornographie. Barker compare la Bible aux revues pornographiques Playboy et Penthouse, imaginez-vous. Puis moi, je demande à Barker, quel est votre problème avec la Bible? Quel est votre problème avec les 10 commandements? La liste des choses à faire et ne pas faire, le plus connu et renommé de l'histoire. Les 10 commandements qui dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettrais point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison ni la femme de ton prochain. Quel est votre problème avec les 10 commandements? Préférez-vous vivre dans une société de voleurs, menteurs, tueurs, sacreurs et adultères qui ne prend jamais une journée de repos? What's your problem? Quelle sorte de société que vous voulez? Vous n'êtes pas d'accord qu'il ne faut pas tuer, pas mentir, pas commettre l'adultère? Quel est votre problème? Avec Matthieu 5, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Luc 6, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La règle d'or, Romains chapitre 12, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Éphésiens 4, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quel est votre problème avec ces passages-là? C'est votre problème. Pourquoi tellement attaquer, discréditer, essayer d'enlever, faire disparaître la parole de Dieu? Moi, je suis plus de l'avis des milliers de croyants depuis 2000 ans qui croient comme Daniel Webster qui dit, si nous vivons selon les principes que nous sommes appris dans la Bible, notre pays sera prospère. Cependant, si notre postérité négligeons ses instructions et autorités, aucun homme ne peut dire à quel moment une catastrophe peut nous anéantir et enterrer toute notre gloire dans une obscurité profonde. Abraham Lincoln qui dit, « Je crois que la Bible est le cadeau le plus précieux que Dieu a donné à l'humanité. Tout le bien qui vient du Sauveur du monde nous est communiqué à travers ce livre. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Moi, je suis d'accord avec les conclusions données par la revue Time, pas une revue chrétienne, sur la revue Time, au sujet de la Bible. Dernièrement, il y avait un de leurs sujets dans la revue Time était « The case for teaching the Bible, why we should teach the Bible in public school ». Et voici quelques-uns de leurs conclusions. Tout simplement, la Bible est le livre le plus influent qui n'a jamais été écrit. Non seulement c'est le best-seller de tous les temps, mais il continue de l'être année après année. En 1992, des professeurs d'anglais ont fait un sondage pour déterminer les 10 meilleures œuvres littéraires retenues dans les cours anglais d'une école secondaire. Les pièces de Shakespeare occupaient les 3 premières positions et la Bible n'y figurait pas. Pourtant, en les comparant du point de vue de la beauté et de langage, Shakespeare a une très faible longueur d'avance. Au niveau de la profondeur des sujets abordés, quasiment égale. La diversité des sujets traités, la Bible. Le nombre d'éditions et la traduction effectuée, la Bible. À l'origine du plus grand nombre de personnes martyrisées, la Bible. Le nombre de guerres qui lui sont attribuées, la Bible. Le réconfort et l'espoir qu'elle procure à des milliards de personnes, vous le devinez bien. Shakespeare sera sûrement d'accord avec ces faits. Selon certaines estimations, Shakespeare aura fait allusion aux Écritures environ 1300 fois dans ses écrits. Au moins, l'athée Dawkins, même s'il ne croit pas au contenu de la Bible, il l'apprécie pour son impact et son influence. Lui a écrit un chapitre formidable dans son livre où il essaie d'expliquer la raison pour laquelle la Bible est toujours chaque année le livre meilleur vendeur, année après année après année. Puis il faut qu'il explique cela. Parce que selon lui, c'est plein de fables et contes de fées, comme c'est ça qu'il propose. Alors ça crée un dilemme pour les athées. Pourquoi qu'un livre plein de fables et des contes de fées est toujours meilleur vendeur, année après année? Il essaie d'expliquer ça en disant, well, c'est par rapport à sa visibilité, c'est par rapport à l'évidence que la Bible a partout, dans la littérature classique, les musiques, les films, la poésie. Et Barker, j'ai une photocopie ici de son chapitre, où ce qui donne plus que 120 citations ou expressions renommées qui sortent de la Bible. Il dit, voici pourquoi que la Bible est toujours là, parce qu'il y a tellement d'expressions qui sortent de la Bible, comme le gardien de mon frère, le bon samaritain, le sel de la terre, le brebis perdu. Lavez les mains de la situation, combattre le bon combat, lance la première pierre, puis donne une après l'autre, après l'autre, après l'autre, qui sort de la Bible. Et à la fin de son chapitre, j'ai écrit avec mon stylo en gros, « Thank you, Dawkins! » Pour tout ce que tu dis par rapport à la Bible, au lieu de réprouver la Bible, tu nous donnes plusieurs raisons pourquoi qu'elle est un livre remarquable et formidable qui mérite un amen et une bonne main d'applaudissement pour les Écritures. La Bible, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est crédible et elle est merveilleuse. Troisièmement, possiblement je termine avec celle-là. Une raison pour croire en Dieu. L'évidence historique pour Jésus. L'évidence historique pour Jésus. Jésus est un personnage historique dont ses paroles et gestes ont été documentés autant plus que n'importe qui d'autre de son époque, autant ou plus que n'importe qui d'autre de son époque. Quelques citations, quelques-unes qu'on a vues la dernière fois. Il y a beaucoup plus de preuves de l'existence de Christ que celle de Socrate, Alexandre le Grand ou Jules César. L'historicité de Christ est attestée non seulement par les chrétiens, mais aussi par les sources grecques, romaines et juives. Outre dans les évangiles, nous retrouvons des références à lui dans ses écrits de Suéton, Pline, le Jeune et Josephus. Dans ses annales, l'historien Tacite parle de Christus, le fondateur d'une nouvelle secte appelée le christianisme. Kennedy Boyer dit, « Jésus est-il un vrai être humain? » Alors qu'il est possible de trouver quelques sceptiques qui avancent une théorie selon laquelle Jésus n'a jamais existé, ce point de vue est à peu près aussi crédible que celui qui prétend que la Terre est plate ou que de petits hommes verts vivent sur Mars. Pelican a dit, sans regard, ce que quiconque pourrait personnellement penser de lui. Jésus de Nazareth a été la figure dominante de l'histoire et de la culture occidentale pendant près de 20 siècles. C'est selon sa naissance que la majorité de l'humanité définit ses calendriers. C'est avec son nom que des millions blasphèment et en son nom que des millions prient. Albert Einstein a dit, selon moi, l'existence historique de Jésus ne peut être remise en question. Personne ne peut lire les évangiles sans ressentir la présence réelle de Jésus. Sa personnalité est palpable à travers chaque mot. Il n'y a aucun mythe possible dans une vie telle que la sienne. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Les athées ont la liberté de ne pas croire en Jésus. Mais le fardeau, la preuve est à eux de réprouver l'existence de Jésus comme personnage historique. Et jusqu'à date, ils n'ont pas réussi. Et la raison est simple. Jésus était, et plus que ça, il est. Il est. Et Jésus ne nous laisse pas la liberté d'être indifférent face à ce qu'il a dit. Comprenez quelque chose. Il ne faut pas nous traiter d'intolérants comme les athées le font. Il ne faut pas nous traiter d'intolérants quand nous disons que Jésus est le seul chemin. Car notre croyance en lui ne nous permet pas de croire qu'il est un parmi mille et un chemins vers Dieu. Car si nous croyons que Jésus est et ce qu'il a dit à son sujet est vrai, nous n'avons aucun choix que de l'accepter comme fils de Dieu, sauveur, Seigneur et Maître, le seul. Ne laissez jamais quelqu'un vous traiter d'intolérant parce que vous croyez en Jésus. Juste le fait que vous croyez en Jésus vous rend intolérant parce que Jésus lui-même a dit qu'il est le seul chemin, seul sauveur, rédempteur et seul Maître. Et en plus, Jésus n'est pas un bon philosophe ou un professeur de morale ou un faiseur de bien. Il est le Fils de Dieu. Il y a des athées comme Charles Templeton qui proposent à dire « Oui, mais Jésus était merveilleux. Jésus était un bon professeur de morale. C'était un bon philosophe, un homme qui a fait beaucoup de bien. » Mais Jésus ne nous permet pas de le croire qu'il est juste une bonne personne ou un bon philosophe. Comme qu'est-ce que C.S. Lewis dit? Il dit, Jésus est soit un fou, un menteur ou le Seigneur, mais ne peut pas être une bonne personne. Voici ce que C.S. Lewis dit à ce sujet. Je m'efforce ici d'empêcher quelqu'un de faire cette déclaration vraiment insensée, souvent prononcée par les gens à propos de Jésus. Quelques athées vont dire ça. Je suis disposé à accepter Jésus en tant que grand professeur de morale. Mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. Voilà ce que nous ne devons pas dire. Un homme qui fut simplement un homme et prononça les déclarations du genre de celles que Jésus fit ne sera pas un grand professeur de morale. Ce sera ou un insensé de la même catégorie qu'un homme qui prétendrait d'être un œuf poché ou le diable de l'enfer. Vous avez un choix à faire. ou bien cet homme fut et est le Fils de Dieu, ou bien un fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter d'insensé, vous pouvez lui lasser des crachets et le tuer comme démon, ou bien vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne proposons pas d'absurdité condescendante quant à sa personne qui aurait été un grand professeur de morale. Il ne nous a pas laissés dans le doute. Telle ne fut pas son intention. Comprenez, Jésus a fait des choses comme pardonner le péché, appeler Dieu son Père, dire qu'il existait avant la terre même et qu'il a témoigné la chute de Satan et ses anges et qu'il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Alors, dès que nous croyons les Évangiles comme un document crédible historique, dès que nous croyons dans Jésus comme quelqu'un crédible et un personnage historique qui a dit ces choses-là, là, nous avons un choix à faire, mais ne laissez jamais quelqu'un être indifférent à Jésus, juste comme une bonne personne, un bon prophète ou un professeur de morale. C.S. Lewis y a raison. Il ne nous laisse pas ce choix-là. Et quand on voit les faits documentés de la vie, la mort et la résurrection de Jésus, ça prend plus de foi, si on veut, dans le miraculeux pour essayer de reprouver que qu'est-ce qui est arrivé, que de juste croire ce que la Bible nous enseigne. Comme dit N.T. Wright, un grand professeur, docteur en théologie et l'histoire, en parlant de la résurrection, il dit, une fois que vous admettez que quelque chose de remarquable s'est produit avec ce corps ce matin-là, en parlant de la résurrection, toute autre donnée s'explique facilement. Une fois que vous insistez pour dire que rien de si bizarre ne s'est passé, vous allez vers des hypothèses de plus en plus complexes et fantastiques. Les arguments pour éprouver les faits bibliques deviennent plus miraculeux que ceux qui décrivent dans les Écritures. C'est pour ça que nous croyons ce que la Bible dit par rapport à Dieu, la création et la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes ici ce soir parce que nous avons fait le choix de croire que ce que Jésus dit à son sujet est vrai. Il est qu'il a dit qu'il était et c'était la preuve par sa mort et sa résurrection. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Peut-être Dan juste peut venir au piano et juste jouer quelque chose qu'on peut juste adorer notre Seigneur vivant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Combien ici que croient que Jésus est le Seigneur? Est-ce que je peux voir vos mains levées? Jésus est le Seigneur. La Bible est vraie. Dieu est la cause en arrière de toute l'humanité et la création. Il est déjà passé 5h30. Nous ne voulons pas rentrer dans les deux autres raisons qui sont plus scientifiques et complexes. Mais on va revenir. On va revenir avec d'autres présentations. Ils vont voir le cours en janvier. Mais j'ai à cœur d'arrêter juste là pour dire, pour parler et focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est le Rédempteur. Il est le Sauveur. Notre vérité n'est pas seulement valable et logique, mais il est vivant. Son nom est Jésus. Et moi, j'aimerais bien qu'on peut juste terminer ces moments ensemble en levant nos mains, nos voix tous ensemble et adorer le Seigneur qui est vivant. La raison pourquoi, même les athées, il faut avouer qu'il y a des milliers, puis des milliers, puis des milliers de vies qui sont transformées, des personnes qui sont libérées. On a entendu plusieurs témoignages ce matin, des gens libérés, Emmanuel, Monique, avec son livre, et d'autres personnes qui sont libérées, transformées par l'Évangile. C'est parce qu'il est vrai, c'est vrai. Et on va adorer le Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons mis notre foi comme le Rédempteur et le Créateur. Levons nos voix, nos mains tous ensemble, focalisés sur Jésus-Christ, puis dit Seigneur, nous t'aimons, on veut te glorifier comme majesté ce soir, tous ensemble avant de terminer avec mon prière.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.